Bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que je vous sers ?
Je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ?
Vous reprendrez bien un peu de SF ?
Ah oui, tiens. Vous reprendrez bien un peu de science-fiction. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément indispensable à toute œuvre de SF qui se respecte. Je vais vous parler des robots. Mais si je parle des robots, je vais inévitablement parler de l'intelligence artificielle, qui en est un corollaire quasi obligatoire. On ne peut imaginer un robot qui interagisse avec son environnement de manière consciente sans une IA. On parlerait alors d'un simple automate. Donc, dans cette émission, l'intelligence artificielle sera traitée, mais pas pour elle-même, mais plus pour son incarnation mécanique. Elle aura le droit à son émission dédiée, en temps voulu. Le terme « robot » est un néologisme qui apparaît en 1920 dans l'œuvre théâtrale de Karel Čapek, intitulée « Rosum's Universal Robots ». C'est son frère qui l'a inventé à partir des mots tchèques « robota », qui signifie « travail », dans le sens de « corvée » ou « besogne ». Pour info, la pièce raconte l'histoire de robots humanoïdes, qui, à force d'être améliorés, prennent la place de l'homme sur Terre. La première apparition d'un être synthétique au cinéma remonte à 1900, avec « Coppelia » de Georges Méliès. Mais là, il y est fait allusion à un automate. Logique, le terme « robot » apparaît 20 ans plus tard. C'est dans le Metropolis de Fritz Lang que l'on voit apparaître un véritable robot. Humanoïde qui plus est. Dès le début, le robot sera souvent d'apparence humanoïde, avec des variations suivant les époques ou les modes. Dans le film Planète interdite de Fred Wilcox, sorti en 1957, le robot mis en scène, il s'appelle Robbie, rappelle le biba d'un Michelin, avec une tête vitrée dans laquelle il y a une profusion d'antennes pivotantes et lumière clignotante. Mais faire apparaître un robot n'est pas chose aisée dans les années 50. On a alors recours à des solutions qui révèlent plus du bricolage, comme dans le film « Le jour où la Terre s'arrêta » de Robert Wise en 1951. Le robot protecteur de l'émissaire extraterrestre est réduit à un simple costume qui en fait un être pâteau au mouvement limité. Une solution, on fait comme si. On fait jouer des acteurs en disant bien que ce sont des machines, comme dans Westworld de Michael Crichton en 1974. Procédé qui sera repris par James Cameron pour le premier Terminator. Dans la plus grande partie du film en tout cas. Dans ces deux cas, c'est le jeu, ou le non-jeu, durant les mauvaises langues, qui caractérise le personnage. Tant qu'on y est, on va parler du T-800, incarné par Arnold Schwarzenegger. Et par là même, on va clarifier les termes employés au sujet des robots. Il y a le robot classique, comme R2-D2. Il a une forme cylindrique, soutenue par deux jambes. Petite digression. On a souvent tendance à anthropomorphiser les machines, c'est-à-dire leur attribuer des caractéristiques physiques ou intellectuelles humaines. Par souci de simplicité, je vais faire de même, histoire de ne pas vous perdre en décrivant un cylindre au sommet hémisphérique et à la base plane soutenue par deux appendices sur pivot. On est d'accord ? On est d'accord. Donc il y a R2-D2, à la forme fonctionnelle. Il y a ensuite les androïdes comme C3PO, robots à la forme humaine, ou en tout cas qui en reprennent l'architecture classique. Deux bras, deux jambes, une tête, tout ça fixé à un tronc central. Mais pour le moment, on sait que l'on a clairement affaire à des robots. Vient alors le T-800. C'est un robot sur lequel est greffée une porte artificielle pour lui donner une apparence humaine. Ce qui lui donne l'avantage de pouvoir évoluer dans la foule sans trop attirer l'attention. Encore qu'une marmule dans son genre, avec l'attitude dont il fait preuve, lui fait perdre rapidement des points de furtivité. Il y a ensuite le cyborg, qui n'entre pas totalement dans la catégorie des robots. Il s'agit d'un être vivant, terrien ou extraterrestre, ne soyons pas sectaires, qui est amélioré par l'implant d'organes artificiels. Cela peut aller d'un œil, comme pour Spike Spiegel dans Cowboy Bebop, à quasiment tout le corps. Le générique du film d'animation Ghost in the Shell le montre très bien. Le seul élément biologique de l'héroïne est son cerveau. Absolument tout le reste est mécanique. Le cyborg est un exemple du transhumanisme, discipline qui promeut l'augmentation des capacités physiques et intellectuelles de l'humain par, entre autres, les implants, visant par cela une immortalité toute relative. C'est-à-dire que toute forme de vie a une durée statistique, que l'on peut allonger plus ou moins. On aura beau faire comme dans Ghost in the Shell, le cerveau, à un moment ou à un autre, il va dire stop. Aucun organisme ne vit éternellement. Et il y a un entre-deux. Pas humain, mais pas vraiment des robots. On pourrait les qualifier d'humains de synthèse. Et dans cette catégorie, il y a deux approches. Pour la première, le sujet ressemble beaucoup à un humain extérieurement et même parfois intérieurement. C'est le cas de Ash, Bishop et de leur congénère David dans la saga Alien. Une astuce pour les reconnaître, séparer la tête du reste du corps. Si la tête fonctionne toujours, c'est un androïde. Si plus rien ne se passe, vous êtes un psychopathe et vous irez en prison. Dans Blade Runner, on retrouve à peu près la même démarche. À ceci près qu'ils sont plus puissants que les êtres humains traditionnels et conçus avec une durée de vie bien précise. Donc ça, c'est la méthode humaine dehors, machine dedans. Dans la série d'animation Neon Genesis Evangelion, c'est la deuxième approche. On pense d'abord avoir affaire à un robot avec son armure, mais on se rend vite compte qu'il y a du biologique sous la carapace. Et ce qu'on y trouve n'est pas beau à voir. Mais ça, je vous le raconterai un jour. Maintenant que l'on sait à quoi on a affaire techniquement, sur le plan scénaristique, on en fait quoi? Plein de choses. Prenons, encore une fois, l'exemple de R2-D2. Au début de la saga Star Wars, il est un simple mécanicien qui répare le vaisseau des héros. Il va logiquement les suivre dans leurs aventures, son caractère bien marqué et son ingéniosité leur sauvant la mise à plusieurs reprises. Le fait qu'il soit un robot change quoi? D'abord pour réparer le vaisseau, il le fuit dans le vide dans l'espace en quelques secondes. Ses capacités techniques sont astronomiques. Il peut communiquer avec de nombreux ordinateurs, là où un humain aurait besoin d'une interface, ce qui perdrait du temps et romprait la dynamique de l'action. On peut le réparer plus facilement et rapidement qu'on ne soigne un être vivant. Ça multiplie également les possibilités d'interaction avec les autres personnages. On a des humains, des extraterrestres et encore d'autres robots. Certes, cela crée une sorte de système de caste. Mais sans les robots, fidèles serviteurs, point de salut. Le robot peut être aussi la caution comique, comme Nono dans Ulysse 31. C'est le personnage qui désamorce des situations lourdes, voire dramatiques, en agissant avec légèreté, mais pas par bêtise. Mais un robot, est-il méchant ou gentil? Là, par contre, le manichéisme est très présent. Les méchants robots sont souvent des pantins, sans trop de jeu ni de discernement, et le gentil est un esprit dégourdi, hors du troupeau, un poil rebelle. Par exemple, Robocop de Paul Verhoeven, sorti en 1987. Où l'on découvre un cyborg basé sur le corps d'Alex Murphy, un policier laissé pour mort après une fusillade. Son alter ego, le D-209, un robot aux allures de dinosaure, dénué de compassion, c'est le moins qu'on puisse dire, et d'une version discutable de l'expression « force doit rester à la loi ».
Braquez votre arme de façon menaçante. Non, pas sur moi, sur le 209.
Oui, monsieur. Oh.
Veuillez lâcher votre arme. Vous avez 20 secondes pour obéir.
Un conseil, mon vieux, faites ce qu'il vous ordonne.
Vous avez 15 secondes pour obéir. Vous êtes en infraction caractérisée de l'article 113, chapitre 9 du code pénal. Vous avez 5 secondes pour obéir.
3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On voit Murphy prendre le pas sur sa barre cybernétique, redevenir pleinement humain et sentir vainqueur de l'affrontement avec le D209. Une sorte de David contre Goliath à la sauce dystopique. Mais bon, il faut quand même citer quelques robots à la fois féroces mais intelligents, voire malins. Le meilleur exemple, Terminator 2. Là, c'est quasiment un inversement des rôles. Le T-800 du premier épisode revient, et il semble pour le moins pâteau, bas de plafond et limité par rapport au T-1000, plus rapide, plus fluide, au propre comme au figuré, et pour le moins opiniâtre. Ce doit être un sentiment glaçant que de se faire poursuivre par un ennemi quasi indestructible, doté des capacités agressives hors normes et qui semble implacable. Tout ce que vous pourrez mettre entre lui et vous sera systématiquement balayé, découpé, traversé, voire empalé. Si James Cameron a frappé un grand coup avec le T-800 et qu'on sort, il y a un réalisateur qui en a fait sa signature. Ses premiers courts-métrages les mettaient même en avant. Vous savez de qui je parle, j'ai consacré une émission à ce sujet. Ah voilà, vous l'avez. Neil Blomkamp. Quasiment toutes ses réalisations nous montrent des robots. Son premier film, c'est une pub pour une voiture qui se transforme en robot dansant. Mais paradoxalement, son premier long-métrage, District 9, n'en montre aucun. Dans Elysium, ce sont des seconds rôles. Mais dans Chappie, là, c'est open bar. Le héros est un robot, son adversaire est un robot piloté. On en revient à cet affrontement du modèle qui se démarque de la masse et qui affronte un ennemi brut de décoffrage. Dans Chappie, on voit que l'IA du robot adopte un comportement qui se rapproche beaucoup de celui d'un humain. Par programmation, par évolution. Le rétrécissement de la marge entre une machine et un humain va commencer à poser problème. Dans Blade Runner, les réplicants qu'on ne peut distinguer d'un humain que grâce à un test, le fameux Voight-Kampff, sont bannis de la surface de la Terre pour ne pas créer de confusion. Dans le film Intelligence Artificielle de Steven Spielberg, le héros est un robot ressemblant à un petit garçon, ce qui est très mal vécu par certains personnages. Même dans notre réalité, les robots aux allures abstraites sont très bien acceptés. Les usines en regorgent. Mais dès qu'on voit un modèle Android aux infos, même un prototype reproduisant imparfaitement un être humain, partiel ou entier, on sent poindre le malaise. Et plus le mimétisme sera poussé, moins la foule l'acceptera. Les robots qui essayent de se faire accepter au sein de la population humaine, par calcul ou de manière sincère, sont nombreux. Les Terminators, David du film Intelligence Artificielle, les différents androïdes de la saga Alien, Chappie. Il y en a un qui appliquera au pied de la lettre ce principe d'assimilation. C'est NDR 114 du film L'homme bicentenaire de Chris Columbus, sorti en 2000. Le robot en question, NDR 114 donc, va à la suite d'un souci technique développer des capacités créatrices à la grande fierté de son propriétaire et va gagner en indépendance au fil de l'histoire. Mais il sentira toujours de la part des humains un sentiment d'infériorité. Lui qui veut aller vers eux, on lui fait comprendre consciemment ou non qu'il n'est qu'un robot. Il va alors se lancer dans un processus de transformation qui fera de lui un être humain à part entière. Ce film, un brin naïf, n'a pas eu le succès escompté. Il est pourtant basé sur une nouvelle d'un des plus grands auteurs de SF, particulièrement dans le domaine des robots, Isaac Asimov. S'il y a bien un romancier de SF qui a écrit sur les robots, c'est bien Isaac Asimov. Paradoxalement, seuls deux films se sont inspirés de ses écritures, L'homme bicentenaire et iRobot. Dans ce film, on y retrouve encore un robot en quête d'humanité. Isaac Asimov a tellement marqué par ses publications sur le thème des robots que les trois lois qu'il a éditées ont quasiment valeur de dogme, même auprès des scientifiques experts dans le domaine. Les trois lois de la robotique d'Isaac Asimov, les voici. Première loi. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, en restant passif, laisser un être humain exposé au danger. Deuxième loi. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. Troisième loi. Un robot doit préserver son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première ou la deuxième loi. Des lois qu'Asimov s'amusera à pousser dans leur retranchement en cherchant toutes les failles possibles. Ce qui donnera l'impression dans certaines œuvres que le robot veut délibérément du mal à un être humain. Un exemple, un humain demande à un robot de lui donner une pâtisserie. Au hasard, un kouign-amann. Bon, jusque-là, rien à dire. Mais au fur et à mesure que l'humain mange le kouign, le robot veut lui retirer. Donc, infraction à première loi. L'humain doit se nourrir pour ne pas mourir. Oui, mais le kouign, c'est quoi? Du beurre, beaucoup, du sucre, beaucoup, et un peu de farine pour lier le tout. Le robot, lui, va voir les conséquences d'un tel régime. Carie, embonpoint, cholestérol, diabète. Des dangers bien concrets dans la logique du robot. Alors oui, on n'a pas l'habitude de se coinfrer d'un kouign-amann entier. Tout est question de mesure, mais où place-t-on le curseur? Un robot vous servira-t-il un verre de vin? Ou vous laissera-t-il fumer une cigarette? C'est ce côté logique à l'extrême du robot et sa quasi-infaillibilité qui dérange. Nous, les humains, imprécis et loin d'être parfaits. Ça nous renvoie une image certes hédoniste, voire inconséquente, mais aussi tellement fragile. C'est pour ça qu'on aime les robots rebelles, imparfaits. C'est parce qu'ils ont l'air plus humains avec leurs défauts et parfois leur empathie. Un robot froid, logique, imperturbable aura toujours des réflexions pragmatiques. Il n'ira jamais nous brosser dans le sens du poil. On pourra dire ça aussi d'une IA qui anime le dit robot. Mais le robot incarne cette intelligence. Il interagit avec nous. Enfin, je dis nous. Je devrais dire les personnages des œuvres de fiction. Mais la robotique moderne est de plus en plus concrète, à tel point que, comme on dit de manière galvaudée, la réalité rejoint la fiction. Si vous êtes curieux, allez faire un tour sur la chaîne YouTube de la société Boston Dynamics. Regardez les vidéos de démonstration d'un robot nommé Spot. Il s'agit d'un robot quadrupède, à l'allure pas très organique, mais à la démarche quasi naturelle. C'est bluffant. Ou glaçant, selon son point de vue sur la chose. Mais ça montre que la robotique évolue, et vite. On est loin de la démarche lente et hésitante d'un comédien engoncé dans un costume en carton, comme on pouvait en voir il y a 60 ans. Il y a l'évolution du style, bien sûr, mais aussi de notre réflexion sur le sujet. La technique a rattrapé nos rêves. Les futurs robots copieront plutôt les animaux que les êtres humains. Question de fonctionnalité, certes, mais il y a aussi une barrière psychologique. Tant que le robot se présente sous la forme d'un petit bonhomme rigolo aux allures de jouet, on trouve ça mignon. Mais quand on verra débarquer un humanoïde aux capacités bien supérieures aux nôtres, là va se poser la question de la cohabitation. Resteront-ils cantonnés à des tâches ingrates ou entreront-ils physiquement dans nos quotidiens? Un peu comme on le visage au Japon face au vieillissement de la population. C'est-à-dire faire appel à des robots assistants pour personnes âgées dépendantes. Va-t-on leur donner une forme humaine pour mieux les intégrer? Ou au contraire, les restreindre à une forme fonctionnelle pour créer une barrière psychologique? L'idée et l'image du robot ont bien changé depuis l'homme en fer blanc qui accompagnait Alice au Pays des Merveilles. Le robot est tributaire de sa programmation et, sauf problème technique, il ne dévie pas de sa mission. Ce côté systématique, un brin psychorigide, est une forme de sécurité, aussi bien pour la santé des humains qui l'entourent que pour leur confort émotionnel. C'est le sel d'un scénario que de glisser un grain de sable dans cette mécanique parfaite et de devoir composer avec un adversaire qui est étanche à la négociation et au raisonnement humain. Comme les gens ont eu peur des premières locomotives, des premiers aérostats, des premières voitures, côtoyer de telles machines hors d'un cadre industriel est déroutant. D'autant plus si elles disposent d'une certaine autonomie. Les robots, depuis leur apparition, nourrissent les fantasmes et les peurs, voire même les deux en même temps. Depuis la nuit temps, pourrait-on dire. En effet, le golem, issu de la mythologie juive, n'est-il pas une sorte de robot? En introduction, je disais par provocation que tout bon film de SF se devait d'avoir un robot dans son casting. Sa présence n'est pas un gage de qualité, mais cela permet d'introduire une nouvelle strate de personnages principaux ou secondaires aux capacités évidemment différentes, qui, à mon sens, permettent d'étoffer un bestiaire multiracial et multiculturel dans les œuvres de SF. Et qui pose également la question, qu'est-ce que la vie? Comment définir un être vivant? De quel pourcentage d'éléments biologiques doit-il être composé pour qu'un être intelligent soit considéré comme vivant? Cette question, comme tant d'autres, ne trouveront pas forcément une réponse ici, mais peut-être des éléments qui nourriront votre réflexion. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un numéro 2, vous reprendrez bien un peu de science-fiction.